Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme.
Oh le but, la sensation des Troyens, et bien voilà, ils l'ont sorti la tête.
Pleine lucarne, Jérôme Rotten.
Dans la surface.
Il est incroyable, ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète.
Avec le studio acrobatique, oh quel but, oh quel but de Jérôme Rotten.
Le multiplex.
C'est le rendez-vous du vendredi. Alors le multiplex à la radio, normalement on commande début, bah nous le vendredi. On lance les matchs en donnant des infos avec les débats également qui vont avec. Grâce donc à nos correspondants qui suivent l'actu des clubs au quotidien dans leur région. On est avec Julien Landry à Montpellier. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Salut Julien.
On va
se demander avec toi si l'électrochoc de la semaine va servir à quelque chose.
L'électrochoc Romain Pitot. Ah non, pas lui.
Ah, il s'est passé plein de choses cette semaine.
Ah, oui,
ils sont à deux doigts de faire des réunions, comme à Bordeaux l'année dernière.
Deux doigts de rappeler René Girard.
Ce sera tout à l'heure. On est également avec Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Salut, bonsoir Maxime. Les amis.
Nice qui reçoit Lille, notamment demain, dimanche à 13h. On parlera de l'envie de recruter Terem Moffi. Vous avez entendu la licorne dans le jingle. C'était Jean Baumel qui se cache derrière la licorne.
Salut
Thibault. Jean-Louis, salut Jérôme, j'en connais un qui espère pas entendre la licorne demain soir, c'est Mathieu Bonnemer.
Ah, il y a Amiens Le Havre.
Ouais.
Eh oui.
Ah, le match de la montée déjà.
Bon, c'est tout le temps le match de la montée.
Ouais, c'est sûr qu'il va me dire, je veux pas t'entendre faire la licorne demain soir.
Ah, oui.
Et puis on est avec Pierre-Yves Leroux en direct du Moustoir, parce que ce soir il y a Lorient-Rennes. Salut Pierre-Yves.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, bienvenue.
Et on va se demander, avec toi dans un instant si la saison de Lorient, vu le mercato, est pas déjà terminée. Ce sera dans un instant, mais on va commencer par Nice. Donc Nice-Lille, dimanche 13h, c'est le feuilleton de ce mercato, le cas Terem Moffi. On a fait le débat hier sur le choix du joueur qui refusait l'OM, qui privilégiait Nice. Alors on va se placer tout de suite du côté niçois. On sait que Lorient attend une grosse offre, on parle de 30 millions d'euros pour lâcher le joueur. Bah, est-ce qu'il faut les mettre? Est-ce que Nice doit mettre le paquet sur Terem Moffi? Vous pouvez nous appeler au 32-16. Maxime, on peut rappeler les infos sur le dossier?
Oui, alors tu l'as abordé Jean-Louis, l'OM a lâché l'affaire sur ce dossier. Nice est donc seul désormais à négocier avec Lorient, mais les Merlus espèrent toujours donc une offre autour de 30 millions d'euros qui viendrait peut-être d'Angleterre, sauf que pour le moment il n'en est rien. Et le joueur lui veut rejoindre Nice, il l'a fait savoir à tout le monde. Donc là c'est une sorte de bras de fer pour arriver au juste prix. Nice monte crescendo son offre, là on est autour des 25 millions plus des bonus pour s'approcher des 30, mais le gym veut pas non plus surpayer parce que les comptes de Lorient sont déjà ouverts avec la vente record de Dango Ouattara. Moffi n'est plus qu'à un an et demi de la fin de son contrat. Il ne veut pas prolonger, c'est pas l'ordre du jour, et il est totalement convaincu par le projet qui lui a été présenté par Florent Ghisolfi et Didier Digard. Donc les Niçois veulent l'attirer, comptent sur les derniers jours de ce mercato pour le faire venir, mais ils ne vont pas se presser à donner forcément ce qu'attend Lorient parce que pour eux c'est quand même déjà cher si on atteint ces sommes-là.
Et t'en as parlé avec Didier Digard ?
Oui, et on a notamment abordé le fait que Terem Moffi ait recalé un petit peu l'Olympique de Marseille pour privilégier le projet niçois. Et en conférence de presse tout à l'heure, il l'a abordé et il a plutôt apprécié cette manœuvre.
Avoir un garçon intelligent, c'est bien. Et il a joué la semaine dernière, il a continué de s'entraîner. Après, bien évidemment, on fait attention parce que les transferts, c'est toujours des feuilletons assez usants psychologiquement. Ça a été un petit peu sportif, donc voilà, on fait attention, mais en tout cas, oui, il est apte.
Voilà pour l'entraîneur niçois. Il est apte.
Sur la fin du son, il parlait de Youssouf Ndaye Chimier qui est arrivé cette semaine, milieu ou défenseur burundais qui est arrivé pour un petit peu plus de 10 millions d'euros.
D'accord. Alors sur Moffi, est-ce que Jérôme, selon toi, il vaut 30 millions? Est-ce que Nice doit mettre ses 30 millions pour le recruter?
Un attaquant qui marque des buts, ça vaut cher dans tous les cas. C'est le cas de Moffi, surtout depuis cette année, parce que les 6 mois, il a quasiment battu son record de buts sur une saison complète. Il y a 2 ans à Lorient, il en avait mis 13 ou 14. Et là, il en est à 12.
Ouais, 12.
L'année dernière était moins bonne, beaucoup moins bonne même. Limite par moment, pas toujours dans les plans de l'entraîneur. Donc, il y a beaucoup d'emballement, ce qui est normal par rapport à Lorient. Ce début de saison et Moffi buteur. Mais 30 millions, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors après, si Nice a les moyens, et tant mieux, on a souvent reproché à Nice de pas mettre la main à la poche et d'attirer des joueurs qui pensent qu'ils peuvent être à la pointe du projet. S'ils pensent qu'avec Mofi, Nice va construire ce projet et que l'année prochaine, comme je l'ai annoncé, à partir du mois de juin, ce projet va exploser, écoute, je leur souhaite. En tout cas, ils ont l'air persuadés que c'est l'attaquant qu'il leur faut. Donc Ghisolfi, il a fait des bons coups quand il était à Lens, des très bons coups même. Donc il a l'air de bien sentir le football et d'être sûr de ce qu'il veut mettre en place dans le projet. Donc on va lui faire confiance, mais encore une fois, c'est un bel investissement et surtout c'est génial pour Lorient. À cette offre,
alors, on en parlera de Lorient.
À cette offre là, c'est compliqué de dire non.
Génial financièrement.
À la prise de Nice, est-ce que tu fais la même chose, Lionel? Est-ce que c'est vers lui que tu tournes? Est-ce que tu mets le paquet?
Moi, j'aime beaucoup son profil, surtout pour les Niçois, parce qu'on peut se rendre compte qu'à Lorient, sans avoir énormément de ballons, il marque, il en est à 12 pions. Quand même, quand on voit le jeu niçois, il y a quand même des occasions et on n'arrive pas à concrétiser. Lui, c'est un mec qui se pose pas de questions. Je pense que c'est un joueur qui peut leur faire vraiment du bien. À 30 millions,
des buteurs, ils ont pris Lionel. Je te trouve un peu dur avec les attaques. Les buteurs, ils ont investi à l'époque sur Laborde, ils ont investi sur Delors. C'est quand même des mecs qui marquaient des buts.
Ouais, mais généralement quand ils étaient à deux devant. Et là, les Niçois jouent avec un seul attaquant. Et Mofi, seul attaquant en pointe comme ça, il le fait très bien à Lorient en n'ayant pas beaucoup de ballons. Je pense qu'en ayant beaucoup plus de ballons, et notamment aux alentours de la surface, plus sa puissance, il est, je pense, pour moi, c'est un bon profil. Et à 30 millions, si Cherki c'est bien à 20, aller à 30, pour moi, Mofi, c'est très
Johnny,
bien.
Johnny, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Gérard Mofi?
Je vous suis. Déjà marqué, je pense, 35 buts à Lorient. Même si c'est pas un profil polyvalent, comme t'as dit Lionel, il va falloir qu'il joue en pointe ou en 4-4-2. Mais je le vois pas, je le vois pas sur le côté. C'est un pied gauche qui fait les appels, qui fait mal à la défense. Mais il y a encore, je pense, une certaine marge. Des fois, il baisse un peu la tête pour le jeu combiné. Donc, à 30 millions d'euros, il faut qu'il soit un peu plus complet. Mais en même temps, il a 23 ans. Et après, les négociations, ça dépend. Si Lorient a besoin de l'argent, ils vont baisser le prix. S'ils n'ont pas besoin d'argent, ils vont dire c'est 30. C'est comme ça le marché qui ça marche. Quand tu dis qu'il y a des gens qui négocient meilleur que l'autre, c'est faux. Ça dépend de combien tu as dans la banque.
Oui,
quand tu as beaucoup d'argent, c'est trop facile à négocier. Quand tu n'as pas, tu dois ouvrir tes jambes. Donc c'est comme ça que ça marche.
Mais Johnny, aujourd'hui,
si Lorient prend 30 millions d'euros là, c'est très intéressant.
Mais parce que Johnny, pour reparler du montant, aujourd'hui, Lorient est en position de force. Le président Ferry, il a raison. Il fait monter, il s'est dit à 30 millions. Bah, c'est une offre qui correspond totalement à ce que je pensais, même au-delà de mes espérances en début d'année.
Alors, et que Lorient, c'est quoi? On va en parler dans un instant.
Fin de saison, il y aura un an de contrat aussi. Hein. C'est dangereux pour ça.
On va enchaîner, messieurs, dans les multiplex le vendredi et également des tours des stades. On y va pour le premier. 19h10, c'est 4 infos en rafale. Et Jérôme, tu me dis celle que tu retiens. Monaco, c'est l'affiche du week-end. Monaco est à Marseille demain à 21h avec une absence importante, Maxime Tilliet.
Et oui, Mohamed Camara, le milieu malien est suspendu, accumulation de cartons jaunes. C'est donc Eliott Matadzou qui devrait jouer aux côtés de Youssouf Fofana dans l'entrejeu. Une absence de taille pour l'ASM parce que c'est l'un des joueurs, des pions inamovibles du système de Philippe Clément. Un coup dur pour Monaco qui, en cas de victoire, peut recoller à 2 points de l'Olympique de Marseille, mais donc fera le déplacement sans l'un de ses cadres.
Lorient-Rennes ce soir 21h, Pierre-Yves Leroux côté Rennes, pas de Toko Ekambi.
Que s'il est arrivé Toko Ekambi et il ne sera pas qualifié pour le de ce soir, et c'est un janvier plus noir que rouge parce que vous le savez, il y a eu beaucoup de blessés avec Terrier, avec Sheka, avec Assignon, c'est la dernière en date. Et bien résultat, on va avoir une composition très renouvelée du côté rennais.
Et toujours sur le mercato, Lecomte est de retour à Montpellier, Julien Landry.
Ouais, les Montpellierains ont trouvé un remplacement à Jonas Omlin. Il est parti du côté de l'Allemagne, de Mönchengladbach. Le transfert a été un petit peu long. Les Montpellierains ont même eu peur de ne pas pouvoir le signer avant le match d'Auxerre. Finalement, il a passé sa visite médicale hier matin, hier après-midi. Et il a pu s'entraîner ce matin et il fera une dernière séance demain matin. Et il sera dans les cages dimanche du côté de la Baie des Champs pour garder les cages montpelliéraines. Un retour pour Benjamin Lecomte qui avait fait 2 ans du côté de Montpellier. 2 saisons où ça lui avait permis de rejoindre l'équipe de France.
Et puis à Lens est à 3. 3 demain à 17h. Tout le monde est là, Jean Baumel.
Exactement, à part les blessés de longue durée comme Cabo, Farinez et Buxa. Et surtout, on a remarqué que le cardinal recruté en novembre et Adrien Thomasson dernièrement de Strasbourg ont été bons contre Brest en coupe. Donc le mercato est normalement terminé. C'est ce qu'a dit hier Franquez, le coach de Lens, parce que ils ont toutes les cases sont cochées, même au niveau départ. A priori, il n'y a même pas de prévu dans le groupe pro.
Très bien. Jérôme, tu retiens quelle info?
La dernière sur Lens, parce que Lens, magnifique parcours, mais premier match des matchs retour. Il faut continuer la bonne dynamique et des matchs à 3 comme ça, si tu veux rester sur le podium et voir faire mieux, il faut absolument les gagner.
C'est ces matchs-là qui font la diff. Dans une seconde, la saison de Lorient est-elle terminée? On en débat dans le multiplex de la 20e journée de Ligue 1 dans Rotten sans flamme. Des infos aussi à venir à Nice, à Nantes, de nouveau à Montpellier, à Lille. C'est le multiplex du vendredi. À tout de suite.
RMC, 18h-20h,
Rotten
sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h15 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On continue notre multiplex Ligue 1. Et oui, on lance cette journée, cette 20e journée du championnat de Ligue 1 qui commence ce soir. On est avec Lionel Charbonnier, avec Juninho, avec Jean-Louis Tour et surtout avec tous nos correspondants qui nous donnent les bonnes infos.
Exactement, on est avec Julien Landry. On va débattre autour de Montpellier dans 10 minutes. Cette semaine va-t-elle servir d'électrochoc? On est avec Jean Baumel. On va débattre sur ce qui s'est passé à Lille, puisque Benoît Costil rejoint le club et quitte Auxerre. Est-ce que vous comprenez le choix de Benoît Costil? Et puis on est également avec Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur et Pierre-Yves Leroux. Pierre-Yves, ce soir, la reprise de la Ligue 1, c'est Lorient-Rennes. Ce sera sur RMC, bien sûr, en intégralité. On va se demander, de façon un peu provocatrice, si la saison de Lorient n'est pas terminée, vu la tournure que prend le mercato.
Je vous ai fait un petit calcul. Déjà, ça va peut-être nous indiquer que la saison de Lorient, elle est peut-être finie depuis quelques temps. Si vous prenez le championnat à partir de la 11e journée, c'est-à-dire le 15 octobre, Lorient est 15e avec 2 points d'avance sur Auxerre 19e. Ils sont sur une série de 1 victoire, 7 points pris en 9 matchs. Il y a un rythme de relégable, en fait. Et si vous ajoutez à ça ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le départ de Dango Ouattara, on l'a dit, le départ probable de Terem Moffi, les arrivées. Alors, il y a des arrivées, certes, Romain Fèvre, Bamba Dieng, c'est quasiment certain désormais, mais ça veut dire beaucoup de changements pour Régis Lebris. On sait que c'est un schéma de jeu qui est très appliqué, qui demande du travail, il faut comprendre un petit peu tout ça, donc ça va pas se remettre en place tout de suite. Et puis on associe le duo Moffi-Ouattara, c'est 18 buts sur 31 pour cette équipe, donc forcément ça risque d'être très compliqué. Du côté de Régis Lebris, cette semaine, il a dit le mercato, on ne sait pas sur quoi on va attirer à la fin, on y travaille, je sais pas non plus, rendez-vous le 1er février. Ça veut dire qu'il y a une véritable incertitude aujourd'hui du côté du FC Lorient.
Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un vrai virage sur la saison lorientaise, Jérôme? Et ce qu'on a vu sur la première partie de saison est difficile à renouveler.
Pierre-Yves vient de nous donner des stats qui sont durs pour Lorient, ils sont rentrés dans le rang, ils ont tellement été là-haut que compliqué d'y rester. De toute façon, c'est le plus dur, l'exigence du très haut niveau, tu peux pas te rater. C'est vrai qu'ils ont été moins performants, moins efficaces, ils ont fait par moments des bons matchs, pas toujours récompensés, c'est vrai. Alors à contrario, tu vas me dire, en début de saison ils gagnaient des matchs par moments avec un peu de chance, donc ça s'est équilibré. Malgré tout, je pense que c'est pas rassurant pour des objectifs bien au-delà de ce qui s'était fixé au début de la saison, c'est-à-dire d'essayer de jouer les troubles faites en haut du tableau. Si tu perds des joueurs, Ouattara, je pense que c'est pas un problème, parce qu'ils l'ont très bien vendu, et moi j'aurais fait la même chose, je l'aurais emmené moi-même, c'est ce que je te disais hier, à l'aéroport ou prendre le ferry pour traverser la Manche. Mais perdre Moffi, perdre Lefebvre, alors c'est pas le cas, mais s'ils perdent ne serait-ce que déjà un des deux, et là on parle beaucoup de Moffi, c'est une grosse perte, oui, en effet, pour que Lorient puisse rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.
Messieurs, on va mettre juste ce débat de côté, parce que l'actualité nous rattrape. Fabrice Hawkins nous rejoint pour une grosse info mercato. Ah, il arrive dans une seconde, Fabrice Hawkins. Donc vas-y, Lionel, tu veux ajouter un mot sur Lorient?
Oui, bah déjà, je pense que l'objectif est atteint pour Lorient. Pour moi, l'objectif, c'était déjà le maintien en début de saison. Ensuite, ils ont surperformé et donc ils ont dit, bah si on peut continuer à jouer les troubles faites, on va le faire. Mais l'objectif, c'était vraiment le maintien. Là, le maintien, il est fait. D'où aujourd'hui essayer de renflouer les caisses et peut-être se séparer de joueurs. Mais c'est vrai que, bien évidemment, quand tu perds Mofi, enfin si tu perds Mofi, Ouattara et peut-être le fait, on ne sait pas. Franchement, ça veut dire que voilà, maintenant on commence à déjà, avec ces 6 prochains mois, préparer l'avenir.
J'ai l'info du coup de Fabrice Hawkins. Ah. Accord entre Chelsea et Lyon pour le transfert de Malo Gusto. Il va signer à Chelsea, mais Jean-Michel Aulas va retomber sur ses pattes puisqu'il va être prêté dans la foulée à Lyon pour finir la saison. La somme n'a pas filtré, mais Malo Gusto, donc, à partir de l'année prochaine, sera à Chelsea. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Est-ce que c'est un choix de carrière que tu comprends? Quand Chelsea vient te chercher, il n'y a pas à réfléchir?
Mais écoute, on parle de Malo Gusto. Donc après, j'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais excuse-moi, c'est pas du top non plus aujourd'hui européen. C'est combien la vente?
On a pas
ça,
le pas,
non mais bon, déjà ça doit être supérieur à 30 parce qu'ils avaient fait une première offre qui avait été refusée. Donc automatiquement, c'est supérieur à 30. Mais c'est une aubaine pour les Lyonnais de vendre aussi cher à un joueur qui pour moi est un joueur moyen. Écoute, là ils se font une affaire, mais ça me laisse tout quand même perplexe sur ce que veut mettre en place Textor. Ça va exactement ce que je te disais hier, c'est que j'ai l'impression que tout est à vendre.
Non mais si tu dis que c'est un joueur moyen, non, s'il y a une grosse offre comme ça.
Mais là encore une fois, non mais moi j'ai un point de vue, j'ai mon ressenti. Je trouve que c'est un joueur moyen. C'est peut-être pas le ressenti. La preuve, c'est qu'ils y croient à Lyon, à Malo Gusto. Sinon, ils l'auraient pas mis titulaire à la place de Dubois. On est d'accord. Donc, à partir de là, s'ils ont un projet bien précis avec des jeunes du centre de formation, il fallait garder Gusto. Donc, si tu le vends, pour moi, tout est à vendre. Quand je te parlais des attaquants, que ça soit Cherki, Dembélé, Aouar et tout ça, bon, Aouar va partir libre au mois de juin. Mais ils sont tous à vendre. S'il y a une offre, voilà. Loukeba, ça sera le prochain, je te l'annonce.
Johnny, tu penses que Gusto peut s'imposer à Chelsea?
Il y a des capacités physiques incroyables. Par rapport à sa vitesse, je vous rassure qu'il a la même vitesse qu'Mbappé. Pour lui prendre le ballon sur le dos, c'est très très dur. Après, bien sûr qu'il manque un peu de finesse ou ses choix, qu'on est sur la ligne. Des fois, il a un peu de mal à prendre l'info avant. Est-ce que l'entraîneur, il sera capable de lui ajouter ça, puisqu'il fasse un peu plus techniquement? Mais il est capable de monter pendant tout le match, revenir et tenir physiquement. Donc, c'est vraiment, à l'époque, il y avait trois arrières droits. On a fait partie d'où pour lui laisser la place. Ouais. Même si à l'époque, le directeur de la formation, il n'était pas d'accord qu'il monte parce qu'il avait 17 ans. Mais quand le joueur, physiquement, il répond présent, t'as pas de souci qu'il monte en pro. Et c'est comme ça que c'est passé à l'époque. Donc, Malo, il est capable, oui. Il est capable. Je pense que la première ligue, il a cette caractéristique pour jouer là-bas. Après, il faut lui donner confiance. L'environnement Lyon, c'est pas facile en ce moment. Même si les jeunes sont un peu plus protégés. Mais ses capacités physiques sont incroyables. Jérôme, sa vitesse, elle est vraiment incroyable. Mais, donc, c'est un entraîneur qui est capable de lui faire progresser. Je pense que l'argent qu'il y a à Chelsea, c'est pas mal d'anticiper.
Oui,
non, mais déjà que le joueur, fin de saison, il aura un an de contrat, Jérôme.
Non, mais il y a ça aussi. Mais ça montre aussi tout le projet qui est en vrac du côté de Lyon. Après, c'est une très bonne affaire au niveau prix parce que, de toute façon, je vais vous dire, hein, les dindons de la farce, c'est, et pas qu'avec Lyon, c'est Chelsea, hein. L'autre, il a acheté le club et il y va, tout va. Il balance à droite et à gauche.
Pourquoi tu dis que c'est les dindons de la farce?
Bah, parce que, franchement, mais je sais pas, on n'a pas filtré le prix du. Mais j'écoute tout ce que tu dis, Johnny, sur Malo Gusto. Moi, je te crois. Mais t'imagines,
Jérôme, c'est un bon joueur, c'est un vrai bon joueur.
Mais toi, il est meilleur que toi, tu le penses. T'aurais mis 30, 35, 40 millions sur la table pour un joueur comme ça.
Oui, d'accord, 35, okay. 30, 35, oui, d'accord. oui. Mais par contre, ça dépend de combien j'ai à Chelsea, oui. Mais si tu me dis, t'as seulement 30, non. Parce que ta marge de choix, elle est petite. Donc, oui, ça dépend de tout le toi. Mais à Chelsea, 30 millions, c'est 30 euros pour nous. Donc, oui.
Oui, d'accord. Okay.
Après, Jérôme, tu parles de Textor. Tu dis, j'ai du mal à voir. Mais en fin de compte, c'est pas lui qui choisit. Ah lui, bon ben non, mais c'est pas. Lui, il s'entoure.
C'est qui?
J'espère quand même qu'il s'entoure.
Mais c'est qui alors?
Il y a du monde, non? Il y en a qui ont remplacé Juni. Il y en a qui ont.
Ah bon?
Bah, il paraît. il paraît. Je sais pas.
Non,
mais voilà, il est là le souci. Le souci, il est peut-être là par rapport au projet sportif. C'est pas Textor qui est arrivé.
Donc tu me dis que c'est pas le patron, c'est pas lui qui décide. Et pourquoi le patron, il va démarcher les joueurs, il va rencontrer les joueurs.
Aujourd'hui, attends, honnêtement, tu penses ce que tu dis là, que Textor, il a assez d'expérience dans le football pour faire la politique technique de l'Olympique Lyonnais.
Pour garder les meilleurs joueurs, ses meilleurs jeunes et ses meilleurs joueurs normalement.
Qui connaît pas, c'est-à-dire que le mec, il arrive, il connaît vachement le championnat français, il connaît l'Olympique Lyonnais.
Il a mis 800 millions sur la table.
Parce qu'il a mis 800 millions, donc il connaît l'Olympique Lyonnais.
Ah, bah c'est grave ce que tu me dis en fait.
Mais non, mais c'est grave ce que toi tu dis.
Mais moi j'estime
quand même.
J'estime quand même que
c'est pas le projet. Le projet, c'est
ça
pas.
Ça fait que, 6 mois qu'il veut racheter le club.
C'est pas Textor qui garde le joueur. C'est son staff technique qui veut le garder ou ne pas le garder.
D'accord. Donc son staff technique dit on vend tout le monde en fait. Tous les joueurs sont à vendre.
Les infos que m'ajoute Edouard G, c'est que le joueur voulait absolument partir. La proposition de Chelsea lui a fait tourner la tête. Il voulait absolument partir et dès cet hiver, hein, et qu'au club on a fait le forcing pour qu'il soit prêté jusqu'à la fin de saison.
C'est un des meilleurs joueurs pour moi.
C'est plus encore que la volonté, comme tu dis, Jean, des dirigeants de le vendre, c'est surtout lui qui voulait partir.
Mais de toute façon, il a un contrat. Donc normalement, si il a un contrat, donc s'ils veulent pas le vendre, ils le vendent pas. Mais moi, je.
Il y a Juni, pourquoi tu dis oh yai yai?
Non, c'est toujours le joueur à la fin.
Voilà. Mais oui, c'est ça. Il est là le problème, c'est toujours le joueur qui décide.
Bah oui, voilà, c'est ça. Bon allez, dans une seconde on reprend notre multiplex. Voilà pour l'info, donc Malo Gusto. On reprendra nos débats autour de Montpellier, du choix de Costil de devenir remplaçant à Lille. Et puis encore des infos dans le deuxième tour des stades de cette 20e journée de Ligue. À tout de suite.
RMC, 18h20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h27 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. C'est la dernière demi-heure de la semaine de Roten sans flamme. Et après, c'est le week-end. On est avec Lionel Charbonnier, avec Jean-Louis Tour et avec Juninho, bien sûr, et avec tous nos correspondants qui nous lancent et qui nous donnent les dernières infos des matchs qui vont se dérouler ce week-end, Jean-Louis.
Ils sont là, Maxime Tilliette, Pierre-Yves Leroux, Jean Baumel et Julien Landry. On va tout de suite se tourner vers lui. Montpellier, donc, en grosse difficulté. La Bérésina, exactement. Montpellier est à Auxerre, donc dimanche à 15h. Cette semaine va-t-elle servir d'électrochoc, Julien? Parce qu'il s'en est passé des choses.
Ouais, en fait, on vient dans le Rotten Régal que quand ça va bien ou que quand ça va très mal. Quand ça va moyennement, on vient pas. Là, ça va très mal, du coup, on est là.
En revanche, je respecte l'émission, c'est Rotten sans flamme le nom.
Ouais, parce que Rotten Régal, c'était il y a 3 ans, donc, mais bon.
Mais il régale, c'est pour ça.
Oui, bien sûr.
C'est pas faux.
Évidemment. Non, mais à Montpellier, évidemment, on essaye d'activer tous les leviers possibles pour remettre cette équipe dans le droit chemin. Elle reste sur une victoire sur les 8 derniers matchs. C'était d'ailleurs du côté de Lorient au retour de la trêve internationale après une campagne de matchs amicaux plutôt intéressant. On pensait que les Montpellier était sorti revigoré de cette trêve, mais il y a eu l'accident contre Marseille, la claque à Nice, la défaite contre Nantes, et du coup après cette petite trêve causée par la Coupe de France et l'élimination du côté de Pau, ben Laurent Nicolin a convié à un repas cette semaine quelques cadres du vestiaire. TJ Savanier, Jordan Ferry pour les capitaines, les jeunes Maxime Estève et Jory Chotard et quelques vieux grognards qui ne répondent pas forcément aujourd'hui aux objectifs fixés par le club, à savoir Mamadou Sakho et Wabi Kazri. Un déjeuner avec Michel Mézi notamment, Bruno Carotti auquel Romain Pitot n'a pas été alors je ne sais pas s'il n'a pas été convié, en tout cas il n'était pas présent parce que Laurent Nicolas avait un message à faire passer et que c'est peut-être plus simple de le faire sans la présence de son coach. Voilà, c'était pour mettre un petit peu tout son monde devant ses responsabilités. On sait que Romain Pitot et Frédéric Mendy ont musclé le discours depuis qu'ils ont repris l'équipe en main, qu'ils ont pointé du doigt le manque d'investissement et de Mamadou Sakho et de Wabi Kazri, que ces derniers s'en sont plaints, qu'ils avaient demandé du temps de jeu, qu'ils ont eu contre Nantes, avec le résultat qu'on sait, le carton rouge reçu par Kazri, le match moyen, voire très moyen de Mamadou Sakho. Du coup, Laurent Nicolin les a mis devant leurs responsabilités cette semaine lors de ce déjeuner. Mais voilà, on essaye d'activer tous les leviers possibles pour remettre cette équipe sur le droit chemin. Voilà, les discours sont musclés. Il y a eu du recrutement avec Kiki Kouyaté qui sera absent du côté d'Auxerre dimanche, le retour de Benjamin Lecomte. Il y aura encore quelques joueurs qui sont attendus, notamment un latéral gauche après le départ de Nicolas Cosa. Voilà, on fait pas des réunions collectives encore, on en est pas loin.
Ouais.
Pour moi, on fait des réunions avec des petits, ça se rapproche. Mais voilà, Laurent Nicolas en tout cas a pris la parole cette semaine avec Michel Mézi.
Oui, ça se rapproche que Montpellier est 15e, reste sur 2 défaites de suite, mais il y en a déjà 12 depuis le début de saison.
Jérôme, 40 buts encaissés.
Et 40 buts encaissés, oui. Et je rappelle pas les les défaites aussi depuis un an, parce qu'il y a eu une série de défaites sur la deuxième partie de saison dernière qui était aussi incroyable. Jérôme, est-ce que ce genre de choses, de réunion, le président qui prend certains joueurs pour les mettre face à leurs responsabilités, ça peut faire un électrochoc?
Bah, je pense que le président, il essaye de faire des choses pour réveiller son vestiaire, réveiller les joueurs, la prise de conscience. Je pense que, en effet, dans les attitudes, et ça dure hein, pas que depuis 15 jours, il y a des joueurs qui n'ont pas conscience qu'aujourd'hui Montpellier est en danger. Il y a 4 descentes. Alors il y en a une, tu vas me dire, qui est quasiment actée, c'est Angers. Ça me paraît difficile que Angers s'en remette. Et on parlera tout à l'heure, ils perdent des joueurs en plus, donc mais il reste 3 places sinon, et c'est très compliqué. Il y a des clubs qui savent, ils connaissent que depuis le début de saison ils luttent pour le maintien, ce qui n'était pas le cas de Montpellier, et puis ça se transforme comme ça. Il y a eu un problème de cadre, parce qu'en effet dans le recrutement qui a été fait, bah encore une fois c'est pas judicieux, parce que les joueurs qu'ils ont pris pour stabiliser le vestiaire, bah, donnent pas satisfaction. C'est la réalité. Les jeunes joueurs à côté, bah, se sentent un petit peu perdus. Les joueurs qui ont l'âme du club, en eux, comme Savanier, bah, sont un peu esselés dans le vestiaire. Changement d'entraîneur. Un entraîneur qui, pour moi, et je le dis, je vais pas rejeter la faute que sur lui, mais il n'y a pas eu de choc psychologique depuis l'arrivée de Romain Pitot. Il a fallu attendre une victoire à Lorient, il me semble, il y a quelques temps, pour dire ah ça y est, il a trouvé la bonne dynamique, les mots, le ceci. Une victoire à Lorient, les gars. On a donné les stats de Lorient, mais c'est rien. Derrière, ils ont pris 3 saucées, Coupe de France contre Pau, alors que c'est très cher à la famille Nicolas et à l'histoire de Montpellier. Tu perds à Pau, donc c'est un gros problème. T'en prends une branlée monumentale à Nice, avec les attitudes terribles, et tu reprends 3-0. Alors je veux bien que les circonstances du match font chez toi contre Nantes. Laurent Nicolas, il peut faire toutes les réunions du monde. Déjà, il aurait dû taper du poing sur la table en me disant écoute, le premier fusible c'est l'entraîneur, je me suis trompé une deuxième fois, c'est pas grave, mais là je vais en prendre un qui va dynamiser ce groupe, qui va les réveiller. Parce que je pense que Romain Pitot, c'est trop tard là.
Oui,
important, vas-y, juste Jean-Louis, ouais. Les 9 prochains matchs de Montpellier, il y a Auxerre, Strasbourg, Brest, Troyes, Angers, Ajaccio et Clermont. C'est-à-dire que sur les 9 prochains matchs, Montpellier joue 7 concurrents directs pour le maintien. Ah, oui. Donc peut-être que d'ici un mois et demi, on saura si Montpellier se maintient ou non en Ligue 1. Et c'est peut-être à mon avis aussi pour ça que Laurent Nicolin a ciblé ce moment-là, parce que le mois à venir pour les Montpelliérains est d'ores et déjà capital pour la suite de la saison.
Et l'erreur, elle est sur le coach, Lio, pour toi, comme dit Jérôme.
L'erreur, elle est sur tout le monde. Quand c'est comme ça, c'est tout le groupe. Alors après, oui, je suis d'accord avec Jérôme. À un moment donné, il doit y avoir. Alors ce qui a pour Romain Pitot, peut-être le souci, c'est que tout de suite, il y a eu quelque chose de bien, et puis derrière, ça s'est
régulé. Ah bon, mais c'est quoi le truc?
Il y avait du mieux dans les.
Bah,
dans
Julien, l'engagement. Il y avait quelque chose de bien quand il a pris l'équipe.
Ils ont perdu contre Lyon et contre Rennes. Après, ils ont fait un nul contre Clermont et contre Reims.
Contre Reims, tout le monde ne fait pas le nul. Et là, c'était quand même beaucoup mieux dans les attitudes. Et enfin, moi, j'ai trouvé. Après, Julien, je sais pas. Je trouvais que c'était mieux dans les attitudes.
Dans le sens de Jérôme, j'ai pas l'impression que
qu'il y a eu un changement.
Romain Pitot est bouleversé vraiment les équilibres.
Là où je suis d'accord. Romain Pitot n'a sûrement pas même les épaules assez larges.
Oui, exactement. Mais c'est pas grave de dire
c'est
ça.
C'est pas le souci. Après que le président maintenant essaie d'actionner un nouveau levier pour essayer de rompre la monotonie et tout ça. Oui, t'essaies de tout faire. Quand t'es, tu sais comment.
Mais bien sûr.
Il faut absolument. Après, tu vas changer. Lui, il va changer. Je sais pas son horaire pour donner son équipe. Il va changer. T'actionnes un peu partout. Maintenant, le prochain match, là, Montpellier va jouer des matchs de coupe tous les week-ends. Le prochain match, c'est Auxerre, et ça va être honnêtement très compliqué, je pense. Pour Auxerre aussi.
Les matchs sont compliqués.
Tous les matchs sont compliqués. Mais je pense qu'il y a du mieux dans le vestiaire côté Auxerrois que du côté Montpellierin. Ouais. Franchement, ça me fait plutôt peur.
D'accord. Messieurs, 19h35, deuxième tour des stades, de nouveau 4 infos. On va à Nice où Dante ne veut pas s'arrêter, Maxime Tilliette.
Ah bah. Oui.
Il veut jouer jusqu'à l'été 2024. Il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse. Il s'en sent capable. Et d'ailleurs, sa première partie de saison montre qu'il est encore en forme malgré ses 39 ans, soit 3 de plus tout de même que son entraîneur Didier Digard. Le Brésilien a déjà joué 27 matchs sur 28 possibles, tous en entier sur cette première partie de saison. Le seul qu'il a manqué, c'était pour une accumulation de cartons jaunes. Donc le monteur tourne encore plutôt bien. Et selon lui, il peut encore tourner pendant un an et demi. Après, c'était aussi un moyen de mettre la pression sur les dirigeants niçois, notamment Florent Guizolfi, parce qu'il est en fin de contrat et il attend donc une prolongation. En tout cas, lui ne se voit pas encore intégré un staff, il veut encore jouer.
Les infos mercato à Nantes, Nantes qui sera à Clermont dimanche 15h. Nantes est dans l'attente, Pierre Blouroux.
Oui, exactement, même s'il y a déjà des choses qui ont été faites avec Mollet et Adjam, le FC Nantes a présenté ce matin encore sa troisième recrue, en l'occurrence João Victor, défenseur central brésilien de 24 ans du Benfica, après sans option d'achat. C'était un besoin vital à ce poste, a dit Comboiré ce matin, afin de combler l'absence de Nicolas Palois et puis la gêne au genou ressentie par Jean-Charles Castelletto depuis la Coupe du Monde. Et puis évidemment, l'attente, c'est le jeu des chaises musicales. Si ça bouge pour Mofi, ça peut bouger pour Delors, évidemment, qui est, pourquoi pas, attendu du côté de la Genelière.
On était sur Montpellier il y a un instant avec Julien Landry, des infos sur la compo d'équipe pour ce fameux déplacement à Auxerre.
Ouais, avec quelques absents de marque, notamment Wabi Kazri, qui est le seul attaquant montpelliérain à marquer, parce qu'à part lui, il faut remonter au mois de septembre pour retrouver un attaquant qui marque. Donc Wabi absent, Kazri absent, Kouyaté, la nouvelle recrue, sera également absent. On devrait donc partir avec Benjamin Lecomte, évidemment, dans les cages. De nouveau, Julien associé avec Esteban en défense centrale, et peut-être Valère Germain, qui avait fait un bon match contre Nantes il y a 15 jours, pour être associé avec Stéphane Mavididi à la pointe de l'attaque montpelliéraine.
Et puis Lille, on va parler de l'arrivée de Costil dans une seconde, mais Lille est à Nice dimanche à 13h, avec attention des pépins physiques, Jean Baumel.
Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on avait une liste de joueurs qui étaient touchés au niveau musculaire, hein. André Gomes, Bamba qui est forfait depuis un petit moment, Ounas qui s'est blessé longuement à la cuisse pour 2 mois, Jonas Martin aussi, on voit Jonathan David qui est un petit peu fatigué. Alors normalement, André Gomes et Jonas Martin étaient espérés pour jouer contre Nice, mais c'est vrai que ça tire un peu au niveau physique. C'est vrai que le jeu lillois est énergivore, et ça pourrait jouer des tours, même si pour l'instant il n'y a pas de grosses craintes. Mais bon, on sent que il faudrait pas que ça s'accentue, sinon ça pourrait poser de gros problèmes. Paolo Fonseca.
Jérôme, quelle info tu retiens?
Nantes, il y a eu du recrutement, non?
Ouais.
Tous les détracteurs de Kita, là, ils parlent pas. Il a quand même mis la main à la poche, il a recruté des joueurs, non?
Oui, mais les choses ont changé aussi, puisqu'on ne travaille plus seulement Moji Bayat, le réseau s'étend. Ouais. C'est plus l'œuvre peut-être du duo Franck Kita Comboiré.
Donc c'est positif pour.
C'est la direction quand même. Bien sûr.
C'est positif. Donc il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Mais quand c'est bien aussi. Donc écoute, peut-être un petit peu de ciel bleu et d'éclaircie du côté de Nantes.
Très bien. Et on va à Lille tout de suite, puisque Benoît Costil va s'engager donc avec Lille. Jean Baumel, il quitte donc Auxerre où il était titulaire pour un club où il va être remplaçant.
Ouais, et en plus le contrat, on pensait tous qu'il allait signer au moins un an et demi, et le club l'a confirmé hier. Ça sera seulement jusqu'en juin prochain, donc c'est quand même très très court. Et en plus, Lucas Chevalier, Paulo Fonseca lui a dit depuis le début de saison, tu vas jouer forcément le championnat, mais aussi la Coupe de France. Donc pas sûr de voir Costil peut-être porter le maillot du LOSC. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de passer de titulaire à Auxerre et numéro 2 et peut-être pas jouer avec le LOSC. Alors est-ce que derrière, parce que demain il sera présenté à la presse, est-ce que il a une option pour prolonger d'un an pour encadrer Lucas Chevalier, parce que ça sera certes forcément sa mission prioritaire, ce jeune gardien plein d'espoir qui fait partie justement de l'équipe des jeunes bleus. Donc c'est une question qui se pose, ou alors va-t-il intégrer l'encadrement sportif? C'est plusieurs questions qui se posent, mais c'est vrai que ça fait très bizarre de un statut comme ça. Lionel, je sais pas, en plus apparemment à l'OGOCR, je sais pas si ça se passait très bien, mais s'il est vite parti, c'est que on était tous d'accord pour mettre un terme à la fin de l'aventure.
Oui, évidemment. Là, c'est un choix de fin de carrière, je pense déjà. Enfin, je pense, j'en suis certain pour Benoît, que j'adore d'ailleurs, et il a vécu
une saison et demie très 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 compliquée, là, une demi-saison avec la GIA et la saison aussi avec le avec les Girondins de Bordeaux en prenant trop de buts. Il a dépassé la centaine, je crois. Attention, c'est pas à lui, hein, c'est pas le gardien qui prend tout seul les buts. On a vu la défense au Serrois ces derniers temps, ça n'allait plus. Là, je pense qu'il y a un ras-le-bol, il y a peut-être une démotivation aussi de sa part et qui se dit ça serait peut-être bien que j'aille quelque part pour.
Il est rincé psychologiquement, tu penses?
Ah oui. Ah bah oui, complet. Complet. Et je le comprends. Sans que ce soit, il a eu deux grosses galères et terminé comme ça, alors que c'est un gardien, très très bon gardien, mais qui a œuvré derrière des défenses, enfin un jeu défensif calamiteux, que ce soit du côté des Girondins ou du côté de la GIA. Ça, même si la GIA se reprend, c'est quand même pas mirobolant. Donc finir comme ça en prenant trop de buts, c'est pas possible pour lui, c'est pas envisageable. Là, je pense qu'il y va pour se refaire. Reprendre un peu de mental, il va être derrière un bon gardien, ça va être une passe d'armes, il est capable de l'encadrer comme il faut. C'est un mec avec une super mentalité et qui est capable. Et s'il va pour faire ce rôle de second, c'est parce qu'il sait qu'il est capable maintenant aussi. Il y va pas, ils prennent pas un mec qui a le moral dans les chaussettes complètement.
Mais Juni, tu penses pas qu'il peut regretter ça une fois sa retraite prise, de pas avoir joué au maximum le plus possible jusqu'au bout?
Je crois pas, son âge non. Léo Jardim, il est parti à Vasco, je crois.
Ouais. Oui,
même s'il a signé 6 mois, quand tu regardes le troisième gardien de Lille, il y a 26 ans, Adam, il a pas joué.
Non, il.
Donc c'est-à-dire qu'il passera pas en 12e, je ne sais pas. Donc peut-être qu'il a pensé qu'il sera capable de prolonger. Des fois, même à la fin de la carrière, quand un club plus grand, au moins sur le moment, sans manquer de respect à Auxerre, il vient vers toi, ça donne envie aussi. C'est vrai, ça donne envie de ressentir ses émotions. À Lille, il y a une très bonne ambiance, un beau stade à jouer aussi, une bonne équipe, un bon entraîneur. Bah, pourquoi pas.
D'accord. Écoute, moi, je connais bien Benoît Costil. Et ce qui est sûr, c'est que déjà, moi, je suis ravi pour lui qu'il finisse dans un endroit un peu plus serein, hein, parce que jouer le maintien comme ça depuis quelques saisons, c'est compliqué. C'est une bonne opportunité pour lui, même s'il va moins jouer, il le sait. Qu'au départ, c'était acté, et je vous le dis, parce que j'en ai parlé directement avec lui, c'était acté 17 mois de contrat. Il a signé que 5 mois. Parce que il y a toujours des gens qui veulent s'immiscer dans les négociations. Tu sais, t'as une image à Bordeaux, on lui a fracassé son image. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui bossent encore et qui bossaient avec lui à Bordeaux, qui se sont chargés de lui faire une bonne savonnette du côté de Lille. Donc ça a laissé le club un petit peu en retrait, mais il s'était engagé, donc il a quand même fait confiance au club, il a signé que 6 mois. Et puis après, ils verront. Mais Lille, ils verront très bien que c'est un bon mec. C'est un bon mec dans un vestiaire, c'est un bon gardien.
Déjà, Olivier Létang le connaît à Rennes aussi, hein, depuis Rennes.
Non, c'est pour ça. Mais moi, ce qui
réagisse comme ça, ça prouve que c'est un bon mec. Allez-y, prenez-moi 5 mois à laisser. Et après, or qu'il a plus rien à prouver, Benoît.
Ce qui m'embête, c'est de coller une étiquette sur des joueurs. Comme ça, c'est inadmissible. Et c'est des joueurs, et c'est des gens en plus qui n'ont rien fait dans le football, qui se permettent de faire ça.
Si, qu'on fait descendre.
Voilà. Ben voilà, ils sont en Ligue 2 aujourd'hui. Non, mais c'est incroyable.
Bon, en tout cas, il sera.
En tout cas, c'est bien pour lui.
Sur le banc dès dimanche à Nice.
Il a le numéro 25.
Ah, il a pris le numéro 25.
Eh ouais. Et tu sais pourquoi?
Non.
C'est un clin d'œil.
Il restait que celui-là, non?
Ben non, parce que quand
un
il a
clin d'œil à qui?
Ben à moi. À moi, parce que
tout le monde n'est pas au courant de votre relation. C'est pour ça.
Il était un grand fan du Stade Malherbe de Caen. Forcément, il est formé. Ouais. Il était gamin. Moi, je commençais en pro, et il était amoureux de mon jeu. Et j'ai commencé avec le numéro 25
dans sa carrière.
Et ben, bravo pour la carrière qu'il réalise. Vu l'idole de jeunesse qu'il avait, c'était
l'exemple parfait.
Bravo Benoît Costil pour ta carrière. Merci messieurs.
De con. Bon week-end.
Julien Landry, Pierre-Yves Leroux, Jean-Jules.
Salut Djibo.
Faudra qu'on la vérifie quand même cette info.
Ah ben tu peux la vérifier. Bah tu lui demandes.
Ah, il paraît qu'il y avait des posters chez lui.
Écoute, demain 13h, course de presse, Jérôme, si tu veux.
Je suis témoin. Il a même envoyé la photo à Jérôme.
Voilà.
Je suis témoin.
Exactement. Voilà, je l'embrasse et je suis content et j'embrasse ses parents parce que c'est des bonnes personnes. Une bonne famille.
Messieurs, bon week-end. On vous retrouve sur toutes les pelouses de Ligue 1. Tous les matchs en intégralité sur RMC. C'est la promesse chaque week-end. RMC, c'est le radio, vous proposez ça. Et ça commence ce soir. l'intégralité de Lorient-Rennes, derby breton, 21h, pour ce match dans l'After Live. Dans une seconde, on va se détendre, on va finir la semaine avec un quiz. On va savoir si Jérôme part en week-end de bonne humeur ou pas. Tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.